Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va très bien, François, et toi?
Ça va bien, passez un bel été.
Ah, super, on en a bien profité.
Oui, bon, parfait. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est peut-être un truc scientifique. J'ai remarqué qu'en raison des pluies abondantes que nous avons eues et de la chaleur humide, mm-hmm. il y a comme une deuxième saison de maringouins. Je ne sais pas d'où ça vient.
Oh, ouais.
Ben, ça vient des marécages, je suppose, des eaux stagnantes. Là.
Il y en a pas mal.
J'ai le plaisir d'habiter près de la forêt. Mm-hmm. Et c'est normal d'avoir des moustiques fin mai, en juin. Puis après l'absence de moustiques en juillet-août, depuis à peu près 10 jours, il y a des tout petits maringouins, mais vraiment comme des mini-maringouins. Très vorace et en très grande quantité. Et je rêve pas, là. C'est une constatation que d'autres...
Ils ont faim, hein?
Oui. Est-ce que c'est la ponte de la saison qui éclot avant le printemps prochain? J'en ai aucune idée. Mais on est rendu avec une deuxième récolte de maringouins, là. C'est pas habituel au mois de septembre.
On s'en ferait passer, c'est sûr.
Voilà. Bon, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet,
c'est
de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Ben écoutez, je vais commencer par une nouvelle vraiment intéressante d'un chercheur de l'Université de Montréal,
hein,
l'équipe du docteur Alexis Pshezhetsky.
D'accord.
Ce chercheur-là a été capable d'observer, c'est pour la première fois, une structure en trois dimensions de l'enzyme qui est défectueuse dans la maladie de Sanfilippo.
Oh.
Alors, si tu veux, quelques mots sur la maladie.
Oui, elle-même.
C'est un peu, hein? On parle ici d'une maladie génétique, une maladie qui est rare et qui, malheureusement, touche aussi les enfants. Une maladie qui va... dans les premières années, c'est un retard d'acquisition cognitive qu'on va observer, mais très rapidement, la maladie évolue, et de sorte que la personne va perdre énormément au niveau de ses fonctions motrices.
Oh.
Et ultimement, à l'adolescence, ben il y a une perte totale d'autonomie et l'enfant va malheureusement décéder. Donc, c'est assez tragique.
Oh, c'est terrible,
maladie,
ça. C'est comme une dégénérescence de tout le système nerveux central qui s'accomplit en une quinzaine d'années, là.
Ben, c'est ça. C'est exactement ça.
C'est dur.
Puis surtout qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui là, qui permet de guérir cette maladie-là. Fait que c'est vraiment... On est sans armes là, devant ça.
Oh.
Alors, au cœur de la maladie, c'est une mutation au niveau d'un gène, et ce gène-là, ben, il code pour une enzyme. Donc, c'est une enzyme qui est défectueuse. Elle est défectueuse parce qu'elle n'a pas la bonne forme. Elle a une malformation.
Parce qu'il faut comprendre que, là, on va parler de chimie moléculaire, là.
Que les
molécules qui constituent tout ce qui est tangible dans l'univers, là, que ce soit les gaz, les fluides ou le solide, enfin, une molécule, c'est une molécule, et ce sont des atomes qui sont reliés entre eux par des liens électromagnétiques, mais on ne rentrera pas là-dedans.
Des liens chimiques.
Okay. Et cette structure-là, elle est normalement 3D. Mais là, dans le cas de cette enzyme, quoi, elle est comme écrasée.
Ben, elle peut être en 3D, mais sa forme n'est pas normale.
Okay.
Et puis ça compromet son rôle à jouer. Parce que
d'accord.
Normalement, cette enzyme-là, elle va avoir je vais la nommer, là, c'est GHGSNAT.
Bon,
je
voilà.
Vous épargne le nom au complet, mais c'est,
c'est très long. HGSNAT, là, ça suffit, oui.
Ça suffit, c'est ça. C'est pas une plaque, là, mais ça suffit. Cette enzyme-là va normalement avoir pour rôle de détruire des déchets, certains déchets que la cellule produit. Le déchet en question, c'est, on appelle ça de l'éparane sulfate. Pour faire ça simple, c'est un sucre. C'est une molécule qui est dans la famille des sucres.
Alors, l'enzyme ne fait pas son travail... Les cellules neuronales...
Ça va s'accumuler.
Ça s'encrasse, si je peux dire. Et donc, finalement, tout le système nerveux de l'enfant est corrompu.
Oui. C'est ça, exactement. Alors, bien évidemment, si on veut essayer de corriger ça, ben une des façons de faire, c'est d'être capable de voir, mais qu'est-ce que ça a de l'air, cette enzyme-là, qui n'est pas de la bonne forme, autrement dit. Et puis, dans ce contexte-là, il y a des chercheurs qui se disent, moi, si on pouvait apporter une thérapie chaperonne, OK? Une thérapie chaperonne, ça veut dire qu'on prend une petite molécule Et puis, cette petite molécule-là peut venir s'intégrer à l'enzyme qui est défectueuse. Puis ça lui permet d'avoir la bonne forme, retrouver son activité
normale. On lui redonne la forme qu'elle devrait avoir, donc son activité redevient normale. C'est donc, les cellules évacuent les déchets et le système nerveux central n'est pas attaqué.
C'est ça. Et là, on en arrive là aux résultats, les travaux de recherche du professeur Przejewski. Ce qu'il a fait, lui, c'est d'être capable de la voir, cette enzyme-là, défectueuse en trois dimensions. Et puis ça se fait pas n'importe comment. La méthode qu'il a utilisée, on appelle ça la cryomicroscopie électronique.
Cryo, ça veut dire que c'est très froid.
Et tout à fait, exactement. Et tout à fait, tu as raison, parce qu'on prend l'échantillon et on va le congeler à une très basse température, là, autour de moins 160 degrés Celsius.
D'accord.
Alors, ça fige les molécules dans le tissu. Et puis après ça, on met ça sous un microscope très puissant. Et là, on prend plusieurs photographies couche par couche, là, comme si on descendait dans l'échantillon au fur et à mesure.
Et ça permet de voir en trois dimensions ce dont l'enzyme devrait avoir l'air quand il est normal.
Exactement. Donc, au final, ce qu'il a été capable de faire en empilant les photographies une par-dessus l'autre, c'est le logiciel qui fait ça, on peut voir la structure en 3D. Et une fois qu'on la voit, ben là, on peut mieux travailler pour trouver des molécules qui pourraient venir s'insérer.
Qui peuvent être comme des petites béquilles, là, ou des petits... C'est un peu comme mettre une cale en dessous de la patte de table là, qui boite.
Oui, c'est une bonne image, une très bonne image.
Alors, encore faut-il voir la table? C'est de ça dont il s'agit. Bravo, c'est au centre universitaire de l'hôpital de Sainte-Justine. C'est très bien. Là, il y a une nouvelle au sujet de l'Alzheimer. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens.
Ah, les amateurs de café vont être contents d'entendre ça, je pense. C'est une étude faite par des Français qui a été publiée très récemment dans la revue Brain, une revue scientifique bien cotée. La caféine aurait un effet bénéfique pour ralentir la progression de l'Alzheimer chez les personnes qui souffrent d'Alzheimer, mais au stade précoce.
Oui,
c'est important de le mentionner. Dans la littérature, là, on le sait depuis déjà un bon moment, consommer de 2 à 4 tasses de café par jour, ça a des effets bénéfiques pour ralentir le déclin cognitif qui est lié au vieillissement. Des études même ont montré que ça diminuait le risque de développer l'Alzheimer.
Est-ce que si on prend du déca, c'est pas pareil parce que c'est la caféine?
il faut la caféine dedans.
C'est la caféine qui compte.
C'est bien joué. Mais il n'y a pas de lien encore établi de cause à effet. Là. On n'est pas encore rendu capable de dire.
Ce sont des observations de type empirique.
Oui, c'est ça, exactement.
D'accord.
Les travaux de cette équipe-là de chercheurs français, ils ont fait ça dans un modèle animal d'abord. C'est de montrer que chez les souris, qui sont atteints d'Alzheimer, en quelque sorte. Là, c'est un modèle qui permet d'imiter l'Alzheimer. Il y a une augmentation de récepteurs, en particulier sur les neurones. Ce sont des récepteurs qui ciblent, entre autres, la caféine. C'est-à-dire, la caféine peut se coller sur ces récepteurs-là. OK? Le problème avec cette augmentation-là des récepteurs, c'est que ça favorise une perte de synapses. Des synapses, ce sont des connexions entre deux neurones, par exemple, pour transiger de l'information, permettre d'acheminer un signal. Ces récepteurs-là ont un nom, et là, il va être moins compliqué, mais c'est les récepteurs A2A de l'adénosine.
Ah, ben oui, c'est sûr.
Le nom de ces récepteurs-là.
Ben voilà. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en ayant ayant une plus grande consommation de caféine, c'est par le café qu'on l'a, mais c'est important que ce ne soit pas du déca. De caféine, on est capable de ralentir cette accumulation.
Exactement. Puis, en fait, ça, c'est l'hypothèse qui est proposée par l'équipe de recherche. Et comment? C'est parce que la caféine va venir bloquer ces récepteurs-là. Fait qu'en les bloquant, on empêcherait la suite des choses. On empêcherait qu'il y ait une perte.
Oui, que ça déboule.
Exactement, c'est ça. Présentement, cette hypothèse-là, elle est testée en étude de phase 3. Ça veut dire qu'on prend des gens, un groupe de personnes.
OK. On a dépassé les souris, là. On est chez les humains.
Oui, exactement. C'est là que ça devient intéressant dans cette étude-là. C'est que là, on est rendu à la phase 3 où on veut voir est-ce que ça marche chez les humains? Mm-hmm. Alors, on prend des humains, un bon groupe, là, qui sont atteints d'Alzheimer au stade précoce. La moitié vont recevoir une dose de caféine journalière, là, 400 mg de caféine par jour.
Ça, c'est presque 5 cafés, ça.
C'est, ouais, 4-5 cafés environ.
Parce que café, c'est 80 à 100 mg,
ouais, c'est
il
ça,
me
c'est
semble.
Oui, c'est à peu près dans ces eaux-là, exactement. L'autre moitié du groupe, ben, reçoit un placebo. Ah,
donc, c'est eux qui ont le DK, voilà.
Oui, c'est ça. C'est bon, j'aime ça. Et puis, après ça, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a pour au niveau de leur capacité de mémoire, oui. Fonction cognitive.
D'accord.
On compare le avant et le après. Puis si les résultats sont probants, ben peut-être qu'il y aura d'autres études un peu plus à grande échelle.
Bravo.
C'est ça qu'on aimerait. Puis peut-être qu'on aura des recommandations par rapport à ça. Alors, c'est intéressant de suivre ça. Ce n'est pas un médicament, c'est important de
le dire, mais ça
pourrait contribuer à ralentir le
développement de la maladie. Voilà, tout à fait. Parce que c'est pas tellement mieux de prendre trop de café, de perdre le sommeil.
Non.
Parce que le sommeil aussi, ou le manque de sommeil est un vecteur important de vieillissement prématuré.
Il ne faut pas exagérer en rien,
en toute chose, la modération, voilà.
Non.
Mais 2 à 4 tasses, mais c'est pas si mal, ça.
C'est ça.
C'est quand même pas une consommation excessive.
Non.
C'est pas comme quoi ça demande une dose massive. Ah, ben bravo! Hein? Puis si évidemment, moi j'aime boire mon café, alors je suis un amateur de café. Alors, j'espère que ça va me donner un petit coup de pouce pour l'avenir. Merci.
Pour terminer, Philippe,
il y a quelque chose de très simple qui va aider les musiciens handicapés visuels.
Exactement. Bon, quand on joue de la musique, hein, il faut se coordonner avec son partenaire de musique. Un étudiant de l'Université de Carleton à Ottawa. L'étudiant s'appelle Léon Loup. Il a développé un petit dispositif qui se porte à la cheville. Et ce qui est intéressant, c'est que deux musiciens le portent. Ils peuvent communiquer entre eux, non pas par des signaux sonores, mais bien par des vibrations.
D'accord.
Alors, en collant les chevilles l'une contre l'autre, là, pour un musicien, il actionne un petit bouton. Ça envoie un signal à l'autre dispositif que porte le musicien, le deuxième. Et ça, ça se traduit sous forme d'une vibration. Voilà.
Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens handicapés visuels sont fort doués pour la musique, mais il ne faut pas croire qu'ils le sont tous, là, ça c'est une autre mythe. Moi, j'ai aucune oreille puis je ne vois pas bien. Alors, c'est pas parce que je ne vois pas bien que tout d'un coup, ça fait de moi un musicien. Mais quoi qu'il en soit, dans un ensemble, dans un orchestre, par exemple, ben là, il s'agit de suivre les indications du chef d'orchestre.
Ben, c'est ça. Qu'on soit dans un orchestre ou à deux, il faut à certains moments accélérer, parfois pour ralentir un peu, augmenter le volume ou le baisser. Donc, ce sont des indications, mais pour une personne avec un handicap visuel, un chef d'orchestre, ça y va de la baguette, hein, on le voit.
Oui,
mais,
tout à fait. Mais la baguette est d'une main, l'autre main, il y a aussi des indications de la main libre. Là.
Oui, tout à fait. Mais bref, tout ça passe par le visuel, autrement dit.
Oui.
Alors, ce petit dispositif-là permet à deux musiciens de s'envoyer de l'information sous forme de petites vibrations. On peut imaginer ça comme un peu un genre de code morse, mais plutôt que d'entendre des bits, ben on ressent des vibrations au niveau de la cheville. Et dépendamment du code qu'on se donne entre les deux musiciens, ben on peut comprendre que deux vibrations veut dire ceci et trois vibrations voudrait dire cela. Donc on peut faire les codes comme on le souhaite, mais au final, ça nous permet simplement d'avoir une belle coordination et de pouvoir apprécier à juste valeur le talent des musiciens qui vont en jouer. Hein, voilà.
Ah, ben ça, c'est formidable, ça, Philippe.
Ouais,
en parlant de musicien, ça va être la pause musicale.
Ah, bon.
Hein, voilà. Alors, je vous réserve une belle surprise.
Bien.
Philippe, on se revoit un de ces lundis. Hein?
Assurément, avec grand plaisir.
D'accord, merci beaucoup.
Parfait, à toi aussi. Bonne journée.